Merci à tous d'être présents parmi nous. Donc, je vais vous demander un peu de silence, votre attention, votre écoute en ce samedi hivernal. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on a le plaisir de recevoir John Harris à l'occasion de l'apparition de son nouveau livre paru chez Baker Street, Le Rocher de Montmartre. Alors, John Harris, vous la connaissez, elle avait écrit le célèbre film Chocolat, une véritable gourmandise littéraire, une véritable gourmandise tout court. C'était un film également avec, et c'est toujours un film avec Juliette Binoche et Johnny Depp. Et aujourd'hui, eh bien, le vent de l'hiver a amené John Harris chez nous, car son nouveau livre, eh bien, c'est la suite de Chocolat. Donc la magie continue, elle continue à nous ensorceler, à nous faire plaisir, puisque son livre est un coup de cœur. Alors John Harris, bonjour, merci d'être parmi nous. Alors d'ici quelques temps, on va être à Noël. On a déjà la neige aujourd'hui, le vent, le froid. Et certains ont la nostalgie des Noëls d'antan, de leur enfance. Ils disent « Oh, la magie de Noël, eh bien ça n'existe plus ». Mais on peut dire qu'avec vous, la magie continue d'exister, quelle que soit la saison, parce que la magie, l'imagination, l'émerveillement, ce sont les décors de vos livres, ce sont des illuminations de vos histoires.
Oh, je trouve qu'il ne faut pas attendre Noël pour trouver la magie. Il ne faut pas aller bien loin non plus. À mon avis, la magie, c'est quelque chose de tout à fait personnel, quelque chose qui ne s'achète pas, même pas quelque chose qui se mange, bien que certaines choses arrivent presque à se rendre magiques. C'est quelque chose de tout à fait personnel, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et ce que j'essaie de créer dans mes histoires, ce sont des histoires de magie de tous les jours, des sortes de contes de fées urbains, si vous voulez. Des contes de fées pour tout le monde.
Mais des contes de fées sans doute pour adultes, parce que c'est vrai que quand on est enfant...
Mais non, pour
on
tout
est...
le monde. Adulte,
oui, mais peut-être
adulte,
encore plus.
Enfant,
je vais
qu'est-ce
vous dire...
qu'il y a comme différence?
Eh bien justement, je vais vous dire la différence. C'est que justement, quand on devient des adultes, on oublie souvent l'émerveillement, l'enchantement que l'on avait naturellement quand on était enfant. Tandis que là, vous, grâce à vous, eh bien, vous nous ouvrez de nouveau nos yeux d'enfant et vous nous restituez justement la magie qu'on perd quand on devient adulte parfois, non?
Moi, je crois qu'on ne la perd pas. On la cache quelquefois, on se force à la cacher, mais je ne trouve pas que ça se perd. Sans ça, les gens n'aimeraient plus les contes de fées devenant adultes. Ce n'est pas vrai. Voyons un petit peu le succès des contes de fées de Harry Potter et de Philip Pullman. Les adultes les ont bien aimés aussi. Une fois que j'étais au Congo, j'étais là avec Médecins Sans Frontières, j'avais amené tout un sac de bonbons pour donner aux enfants qui devaient avoir des piqûres et des traitements qui leur feraient mal pour les empêcher de pleurer. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait, il n'y avait pas que des enfants dans la queue, il y avait tout un groupe de vieilles dames. Et finalement, j'en fais venir une qui était très timide. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites ici? C'est des piqûres pour les enfants. Elle m'a dit, mais vous avez des bonbons? Et les grands-mères aiment aussi les bonbons. Eh bien, je pense que les grands-mères aiment aussi les histoires. Alors moi, j'écris pour tout le monde.
Voilà, alors vous écrivez des histoires. Est-ce que justement vos histoires, ce sont des amis invisibles, comme certains s'inventent une ombre ou s'inventent leur propre histoire? Est-ce que vous, ce sont justement vos enfants que vous nous projetez à nous tous?
Si je disais ça, mon enfant me gronderait. Je vois la différence, mais enfin, j'aime bien les contes, j'aime bien les histoires et j'aime bien explorer pourquoi les gens font ce qu'ils font. Je pense que tout le monde a une histoire à raconter. Et maintenant que mes livres ont eu un certain succès et que j'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'ai tendance à collectionner ces histoires-là. Elles me viennent un petit peu comme ça. Et de temps en temps, elles se retrouvent dans mes romans.
Alors, un très beau roman, un roman, je dirais, sur la différence et comment on vit sa différence. Et ce n'est pas toujours facile de vivre sa différence.
Non, ce n'est pas facile d'être différent. Et pourtant, ce sont ceux qui sont différents, qui sont un peu bizarres, qui sont un peu écartés des gens ordinaires qui créent les histoires. Ce sont eux qui font commencer les histoires, ce sont eux qui font la différence dans la vie des autres. Et mon héroïne ici, ma Viane Rocher, qui m'a suivie maintenant depuis bien longtemps, qui est revenue, est une de ces personnes-là.
Alors justement, avant d'en venir à votre héroïne, je vais peut-être parler juste d'une de ces deux filles. Justement, il y a Anouk, l'enfant de l'hiver, par rapport à son autre fille qui est l'enfant de l'été. Alors Anouk, est-ce qu'elle est différente ou est-ce qu'elle est spéciale?
Tout le monde est spécial. Mais je pense que certains enfants ont tendance à se trouver un petit peu plus différents des autres. Et Anouk, qui ressemble un peu à ma petite fille, à moi, Anouchka, est un enfant qui n'est pas tout à fait comme les autres, qui a des goûts un peu différents, qui se trouve un petit peu éloigné des autres, qui ne s'intéresse pas forcément aux choses auxquelles les autres filles de son école s'intéressent. Elle se trouve très, très isolée. Pour ceux qui n'ont pas lu Chocolat, il faut dire que c'était une sorte de roman d'amour entre une mère et sa petite fille. La petite fille qui avait 6 ans a maintenant 11 ans. Et c'est un âge un peu difficile, n'est-ce pas ? C'est l'âge auquel on se rend compte que, ma foi, il y a une vie ailleurs. Et il y a des intérêts ailleurs. Et pour les parents d'un enfant de cet âge-là, c'est un moment un peu difficile aussi parce qu'on ne nous dit pas, quand on a un enfant, qu'avoir un enfant, c'est, à un certain niveau, avoir peur pendant le reste de sa vie. On ne nous dit pas ça. C'est à nous de l'apprendre. Et Viviane Rocher, qui n'avait à l'époque de Chocolat peur de rien ni de personne, est devenue une mère inquiète, une mère de jeune adolescente. Ce n'est ni sa faute ni la faute de la jeune adolescente, mais enfin, c'est arrivé quand même.
Et aussi, au-delà de la peur, Johanna Ries, ce n'est pas facile le métier de parent. Vous dites à travers cette histoire que quand on devient parent, c'est vrai qu'on a peur, mais également qu'on devient des menteurs, qu'on raconte des mensonges.
On raconte des mensonges, mais avec les meilleures des bonnes intentions, n'est-ce pas ? On dit, les monstres n'existent pas, rien ne peut te faire du mal, je serai toujours là, etc. Ce sont des gentils mensonges, mais ce sont des mensonges quand même. Et à un certain âge, on se le rend compte.
Alors, ce n'est pas facile, finalement, d'être la fille d'une magicienne ou la mère d'une magicienne non plus.
Exactement. Et c'est pour ça que Viviane a décidé de reconstruire sa vie. Elle qui filait de village à village, qui rencontrait de nombreuses personnes, qui leur changeait un petit peu la vie, qui faisait de la magie sans vraiment penser aux répercussions, sans penser à sa vie à elle, a décidé de devenir une personne ordinaire, une personne qui n'est plus différente. Et il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord parce que sa fille atteint maintenant l'âge scolaire, a besoin de stabilité. Aussi, elle a un autre enfant, une petite fille qui s'appelle Rosette, qui a des problèmes tout à fait spéciaux à elle. Et Viviane a décidé de sacrifier une partie de sa liberté pour être la mère qu'elle n'a jamais eue. Elle vit maintenant à Paris, lieu qu'elle a refusé de fréquenter parce que c'est là où elle est née. Et maintenant, elle y est de retour. Elle ne fait plus de magie. Elle ne fait même plus de chocolat parce que finalement, bien qu'elle soit chocolatière et qu'elle ait un petit magasin, une petite chocolaterie, c'est tellement plus facile de commander le chocolat à l'usine comme tout le monde. Elle s'habille de façon tout à fait normale. Elle est presque, mais pas tout entièrement, différente.
Et elle vivra donc sa nouvelle vie à Montmartre. Mais est-ce qu'il y a de la place à Montmartre pour deux enchanteresses ? Et comme quand on a été une magicienne, est-ce qu'on peut prendre déjà sa retraite ?
C'est une bonne question. C'est un petit peu comme les héros des westerns qui ne peuvent jamais tout à fait prendre leur retraite. Ceux qui ont vécu une vie dangereuse, une vie de vie et de mort, est-ce qu'ils peuvent vraiment devenir fermiers ? Eh bien, c'est une question que Viviane se pose. Et je pense que vraiment, dans son cas, la réponse est non. Elle peut se cacher, mais elle ne peut pas se changer. Par contre, elle essaye. Elle a même essayé de s'attacher à un homme qui est bien gentil, mais qui ne la connaît pas du tout, qui fera sans doute un bon père pour ses enfants, mais qui ignore quelle sorte de femme elle est. Et elle pense que peut-être qu'elle pourra se créer une vie avec cet homme-là. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Nous, on sait que c'est vrai. Nous qui la connaissons, qui avons lu Chocolat, on sait bien que c'est tout à fait impossible. Mais enfin, il y a des gens qui n'apprennent pas.
Et puis, on ne peut pas changer ce qu'on ressent. Alors, on l'a dit, elle se trouve à Montmartre. Finalement, Johanna Ries, on a tous besoin de croire en quelque chose. Certains, c'est l'amour. D'autres, c'est le business. Certains, c'est la magie. Alors, bien sûr, j'ai envie de vous demander, vous, Johanna Ries, en quoi croyez-vous ?
Moi, je crois en beaucoup de choses. Et vraiment, je crois en le potentiel. Je crois au potentiel du cœur humain, peut-être pour le bien et pour le mal, d'ailleurs. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit une question de croyance particulièrement. Je crois qu'on est tous là parce qu'on croit à quelque chose. Je ne suis pas sûre que le business soit quelque chose auquel on croit. C'est peut-être une sorte de rêve un peu nébuleux, mais enfin... Je crois que nous croyons tous à plus ou moins la même chose. Nous croyons que Les monstres existent et peuvent être vaincus. Nous croyons à la possibilité de l'amour pour nous sauver la vie. Nous croyons à un avenir, même quand le présent n'est pas particulièrement beau. C'est pour ça qu'on aime les histoires. C'est pour ça qu'on aime les contes de fées, parce que les contes de fées, autrefois, les contes de Grimm et d'Andersen, n'étaient pas des histoires pour faire plaisir aux petits-enfants. C'était des histoires qui étaient là pour soulager des vies brutales et courtes et pour donner de l'espoir à des gens qui n'en avaient pas. Et c'est pour ça qu'il existe encore des librairies comme ça, des librairies pleines de romans et d'histoires, parce que ça nous donne finalement de l'espoir pour l'espèce.
Mais la différence avec la vie, finalement, dans les contes de fées, les sorcières, on les reconnaît, elles sont bien visibles, le méchant est bien présent, tandis que malheureusement, dans la vie, les sorcières, elles sont là aussi, mais là, on ne les reconnaît pas toujours.
On a quand même nos monstres, n'est-ce pas? Ils ont peut-être un peu changé de visage, les monstres et les loups-garous et les sorcières et les gobelins ont peut-être changé de visage un peu. Maintenant, on a peur des terroristes. On a peur de ce type un peu louche qui se promène autour de l'école de son enfant. On a peur d'être attaqué. Mais les monstres existent toujours et il existe aussi ce besoin de les exorciser et de croire que peut-être que nous, on peut changer quelque chose.
Alors, changer quelque chose, on peut tous changer sa vie. C'est le cas de votre héroïne qui va changer de vie une fois qu'elle est à Paris. C'est donc un roman également sur les changements de vie. Alors, Joanne Harris, si on vous offrait une toute nouvelle vie, complètement différente, entière, est-ce que vous l'accepteriez ?
Je me méfierais beaucoup. Je me demanderais qu'est-ce qu'il fallait que je paye pour cette nouvelle vie. D'ailleurs, l'ancienne me plaît. Et je pense que vraiment, cette illusion de changer est exactement ça. C'est une illusion. Je ne peux pas changer ma vie, même si elle me déplaît. Je ne peux pas l'échanger pour une autre. Ce que je peux essayer de faire, c'est d'améliorer certaines choses. Mais enfin, une vie tout à fait nouvelle, non, je n'y crois pas.
Et puis, vous pouvez aussi, on peut se faire plaisir. Alors, vous êtes certainement une gourmande par rapport au chocolat, mais dans le livre, on parle à nouveau beaucoup de chocolat, mais également beaucoup de chaussures, il me semble. D'ailleurs, le titre en anglais, il y a chaussures dans le titre en anglais.
Oui, il y a les chaussures dans le titre. L'autre titre, traduit plus ou moins, c'était les talons cerises. Les talons rouges cerises, parce que il faut comprendre, pour ceux qui n'ont pas lu ce roman-ci, ce n'est pas tout à fait la suite de Chocolat. D'abord, vous savez bien que le lieu est différent. Ce n'est plus un petit village dans le sud-ouest, c'est Paris. Et l'histoire a grandi. Comme les personnages, l'histoire a grandi. Ce n'est maintenant plus une lutte entre une chocolaterie et une église. C'est une lutte entre deux sorcières. Si vous voulez, une bonne et une méchante. La bonne s'appelle Vianne Rocher et comme le cow-boy des westerns, elle n'a plus envie d'être sorcière, elle a envie d'être autre chose. Ça tombera mal parce qu'il faudra enfin qu'elle ressorte ses pistolets pour une dernière bataille parce que l'autre sorcière, qui est un de mes personnages préférés d'ailleurs, s'appelle Zosie de l'Alba et son truc, ce n'est pas le chocolat du tout, ce sont les chaussures. Maintenant, pourquoi les chaussures ? Vous allez tous regarder les miennes qui sont moches, mais... Il me semble, ou plutôt il m'a semblé en écrivant ce roman, qu'on peut apprendre pas mal de choses sur les gens en regardant la façon d'abord dont ils mangent, tout le monde regarde les chaussures, et aussi la façon dont ils se chaussent. Parce que les chaussures, c'est quelque chose de... Quelquefois, c'est fonctionnel, mais très souvent, il y a quelque chose d'autre attaché aux chaussures, n'est-ce pas ? Il y a certaines associations... Dit-on, il y a des associations de sensualité, de beauté, d'élégance, de douleur. Moi qui portais des chaussures à talons très haut hier soir et j'ai dû marcher longtemps, je l'ai connue cette sensation. Mais aussi, il y a un côté féerique dans les chaussures. Si vous regardez les contes de fées, il y a très souvent des chaussures là-dedans. Regardons par exemple Cendrillon, le chat botté. Il y a Dorothée, bien sûr, dont les chaussures rouges la ramènent chez elle. Il y a cette histoire des chaussures rouges, ce vieux conte tchèque où la jeune fille, en portant les chaussures, doit danser jusqu'à temps que quelqu'un lui coupe les pieds. Il y a un côté dans les chaussures, d'abord, qui est magique, qui est attrayant et qui est aussi un peu dangereux. Et ma vilaine sorcière, ma Zosie de l'Alba, est une personne qui s'identifie par ses chaussures et ses talons rouges cerises qu'elle porte en arrivant sur la butte de Montmartre devant la petite chocolaterie de Vianne Rocher pour lui changer la vie pour le bien ou pour le mal, qui sait. Ces chaussures-là sont vraiment en partie le cœur du roman et c'est pour ça que j'en parle. Alors les chaussures et le chocolat liés à la magie sont vraiment le centre de cette histoire.
Alors rassurez-vous, hein, c'est du chocolat qu'on a près de nous aujourd'hui que vous pouvez déguster. Donc on n'a pas de chaussures à vous proposer, pas encore, qui sait. Un jour, Marc aura peut-être l'idée de lancer une paire de chaussures dans sa librairie. Avec lui, tout est possible. Vous le disiez hier soir, vous étiez à Paris, à l'ambassade en anglaise pour la présentation de votre livre. Le vent vous a apporté aujourd'hui chez nous un vent hivernal puisqu'on a connu les premières neiges aujourd'hui. Est-ce que le vent, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que vous parlez du vent également dans ce livre en disant que deux types de vents peuvent nous emporter, celui du désir ou celui de la peur, celui de la transformation ou de la destruction.
Le vent, bien sûr, n'est ni bon ni mal. C'est une question de direction, une question de saison. Le vent qui commence le roman Chocolat est un vent d'espoir, un vent qui mène vers Pâques, vers la fête. Le vent qui commence le Rocher de Montmartre commence le 31 octobre. C'est un vent d'hiver. C'est un vent qui amènera des esprits sombres. Donc, c'est une histoire plus ou moins sombre. C'est une histoire, si Chocolat était un roman sur l'amour et sur la tolérance, cette histoire-là est plutôt... On parle plutôt de ce qui fait peur. Et vraiment, c'est... Enfin, vous allez voir, mais Noël, pour moi, et l'hiver, ce ne sont pas toujours entièrement des moments de joie. Je pense que Noël est un temps de l'année qui nous divise un peu, n'est-ce pas ? Noël, pour moi, c'est toujours quand il fait froid, quand il fait sombre. On essaie d'y trouver un petit peu d'espoir, mais très souvent, c'est le désespoir de trouver que ce qu'on espérait n'a pas tout à fait, encore une fois, n'est pas tout à fait arrivé.
C'est pour ça qu'on a bien besoin de lumière, qu'on allume beaucoup de bougies, qu'on s'illumine comme on peut, comme dans une librairie où finalement les livres peuvent être des véritables lumières. Le vôtre en est une belle lumière qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses à lire, mais c'est également le plaisir de la lecture qui est important quand on plonge dans un livre. Alors avant de céder la parole éventuellement à nos amis qui sont venus vous écouter aujourd'hui, on va peut-être faire une lecture que vous avez choisie pour donner une atmosphère à ce livre. Ensuite, eh bien, nous partagerons donc les questions-réponses avec vous, si vous avez envie. Et Jonah Harris nous fait le plaisir de rester pour dédicacer également son livre, qui est un très beau cadeau de Noël, plein de magie. Alors, Jonah Harris, je vais vous proposer donc de faire la lecture.
D'accord. Eh bien, je vais vous choisir quelque chose. Je ne suis pas sûre. Je pensais vous lire quelque chose du... De la fin du roman, mais comme on a parlé d'autre chose, on va peut-être essayer quelque chose d'autre. C'est difficile parce que je ne connais pas cette édition-là. Elle est toute neuve. Alors, bon, je vais vous lire quelque chose où on parle du chocolat et aussi de la magie, parce que pour Vianne et pour moi, le chocolat et la magie ont certains liens. Pour Vianne, qui a passé toute sa vie à d'abord faire des chocolats pour faire plaisir aux gens et aussi faire de la magie pour essayer de changer leur vie, n'a pas vraiment réussi à changer la sienne. Et cette section-là que je vais vous lire, c'est Vianne qui utilise le chocolat un petit peu comme ceux qui utilisent les cartes de tarot pour essayer de voir un avenir qui devient de plus en plus nébuleux, de plus en plus dangereux, et où elle a peur de perdre la chose qui lui est la plus importante au monde, l'amour de sa fille. Et pour connaître son avenir, elle se sert de son grand talent, c'est-à-dire de voir dans les arômes et les fumeurs du chocolat ce qui va se passer. Donc, voilà bien longtemps que je n'ai pas interrogé les signes. Un tout petit coup d'œil parfois. Une étincelle jaillit au contact de la main d'un inconnu, mais rien de plus spécifique. Je sais deviner les préférences des autres, c'est tout. Et quel que soit leur secret, je ne veux pas les connaître. Ce soir, pourtant, je dois essayer de nouveau. Ce que m'a appris Anouk, bien qu'elle ne m'ait pas tout dit, est suffisant pour que je m'en rende compte. J'ai réussi à garder le calme jusqu'à ce qu'elle sorte, à maintenir l'illusion que j'étais toujours maîtresse de la situation. Mais je l'entends maintenant souffler, ce vent de décembre, et les bonnes dames charitables sont à notre porte. Mes cartes de tarot ne me sont d'aucune utilité. J'ai beau les battre et les rebattre, elles ne font que me répéter la même chose, me montrer les mêmes images dans un ordre différent. Alors, cette fois, j'utilise le chocolat. Une méthode dont je ne me suis pas servie depuis des années. Mais ce soir, j'ai besoin d'avoir les mains occupées. Et la préparation des truffes est si simple que je pourrais les faire les yeux fermés, au simple toucher, avec seule l'odeur et le bruit du chocolat de couverture fondue, pour jauger leur température. C'est une sorte de magie, vous savez. Ma mère la traitait avec mépris, l'accusant d'être superficielle, de représenter du temps perdu. Mais c'est la mienne. Et mes méthodes ont toujours été plus efficaces pour moi que les siennes. Toute magie, bien sûr, a des conséquences. Mais nous sommes déjà allés trop loin pour que cela m'inquiète beaucoup. C'était une erreur de mentir à Anouk. Une erreur encore plus grande de me mentir à moi-même. Je travaille très lentement, les yeux mi-clos. L'eau chauffe et devant moi monte une odeur de cuivre chaud, de métal, qui témoigne d'années d'utilisation. Je me sers de ces casseroles-là depuis si longtemps. Je connais leurs contours, les bosselures que le temps y a accumulées. À certains endroits, elles gardent une empreinte plus brillante, polie par mes mains sur leur patine sombre. Autour de moi, tout semble avoir acquis une définition plus précise. J'ai l'esprit clair, le vent s'est levé. Encore quelques jours et la lune du solstice aura atteint sa plénitude. Elle flotte dans le ciel, au-dessus des nuages, comme une bouée sur une mer déchaînée. L'eau frémit. Elle ne doit pas bouillir. Je râpe maintenant le chocolat de couverture dans la petite casserole de céramique. Presque instantanément s'élève le lourd et sombre arôme du chocolat noir. À cette concentration, il met du temps à fondre. Il ne contient que très peu de graisse et il va me falloir y ajouter beurre et crème pour lui donner la consistance nécessaire pour les truffes. Mais maintenant s'élève une odeur d'époque lointaine, de forêts, de montagnes de l'Amérique du Sud, d'arbres abattus, de sèvres épandues, de fumée de feu de bois. D'encens aussi, de patchouli, de l'or noir des Mayas et du rouge des Aztèques, de roc et de poussière, et d'une jeune fille aux cheveux ornés de fleurs qui tient une coupe de pulque dans la main. L'odeur est enivrante. En fondant, le chocolat devient luisant. La vapeur s'élève de la casserole de cuivre. Le parfum s'enrichit de cannelle, de poivre, de jamaïque et de muscade. Il développe de sombres harmonies d'anis et de café et des notes plus lumineuses de vanille et de gingembre. Tout est presque fondu à présent. Une vapeur légère monte de la casserole. Une vapeur qui me fait tousser. Ce que nous avons ici maintenant est le théobroma à l'état pur, l'élixir des dieux sous sa forme volatile. Et dans cette vapeur, je peux presque apercevoir. Et vous allez voir ce qu'elle aperçoit tantôt.
Merci, Johanna Harris. Merci également pour votre français, parce que vous êtes votre maman est française.
Ma mère est française, oui, mais j'habite en Angleterre.
Voilà, donc vous représentez bien les relations franco-anglaises. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir immédiatement, poser les questions à l'instant avec les micros. Il ne faut pas avoir peur, même si la peur fait partie du roman, ou évidemment vous pouvez vous entretenir avec Johanna Harris en vous faisant dédicacer son livre et en profitant également de la dégustation de chocolat qui vous est offerte aujourd'hui par Zaba.
J'espère que ça vous a alléché un petit peu, parce que sans ça, il faudra que je le mange tous moi-même.
Voilà, et comme elle est très gourmande, si c'est comme dans les...
Gourmette, c'est vouloir manger un kilo de pommes de terre. Gourmette, c'est vouloir manger simplement une quantité assez modeste de chocolat. Il y a une différence.
Ça, c'est fantastique. Avec, entre guillemets, les gens qui ne parlent pas votre langue maternelle, moi, ma langue maternelle est le français, ils ont toute la finesse du langage et c'est eux, justement, qui nous apprennent cette finesse. Voilà. Donc, Johanna Harris, merci d'être parmi nous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, je vous invite dès à présent à venir la rencontrer. N'hésitez pas à prendre son nouveau livre qui est paru chez Baker Street. Un très grand merci à vous tous.
Merci.